Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du grain à moudre, une émission préparée par Mina Fézy, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mathilde Barbier. Réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Anthony Thomasson, une émission enregistrée avant-hier. Il faut avoir regardé au moins une fois le concours de l'Eurovision pour comprendre que ce n'est pas sur la qualité musicale des chansons en compétition que se joue la victoire. Si ce devait être le cas, il n'y aurait le plus souvent que des perdants. L'édition 2014 n'aura pas dérogé à la règle. La victoire de la chanteuse travestie Conchita Wurst, femme à barbe autrichienne, ne doit sans doute pas grand-chose à la musique, mais bien davantage à la politique. En période de tensions renouvelées entre l'Ouest et l'Est de l'Europe, il s'agissait de montrer son appartenance soit au camp des libéraux en matière de mœurs, soit à celui des conservateurs. C'est en tout cas de cette manière qu'a été analysé le résultat de ce concours, qui ne mériterait pas qu'on s'y arrête plus longtemps, s'il ne témoignait pas justement d'une vision du monde rarement prise en charge par la géopolitique, à savoir comment les États se positionnent sur les questions liées aux libertés sexuelles, de quelle façon ce positionnement conditionne leur place au sein de l'ordre mondial, mais aussi comment ces questions sont instrumentalisées sur le terrain politique. On pense par exemple, dans l'actualité récente, à la mobilisation autour des lycéennes enlevées au Nigeria ou bien au baiser cannois de l'actrice iranienne Leila Hatami au président du festival. Alors y a-t-il une géopolitique du sexe ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Nadine Catan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche en géographie au CNRS, co-auteur de l'Atlas mondial des sexualités, liberté, plaisir et interdit, publié aux éditions Autrement. C'est un atlas, comme son nom l'indique, dans lequel vous expliquez notamment que la sexualité est au fondement de l'organisation de nos sociétés. On aura l'occasion justement avec vous d'examiner un petit peu cette carte mondiale. Pour discuter avec vous, Sonia Dayan-Hersbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, philosophe de formation. Vous dirigez la revue Tumulte, qui avait notamment consacré une de ses éditions, le titre précis, « Dire les homosexualités d'une rive à l'autre de la Méditerranée ». Vous travaillez notamment, enfin en tout cas vous avez déjà écrit des choses sur l'instrumentalisation de la défense des minorités sexuelles. Je résume, bien entendu, vous aurez l'occasion de détailler tout cela avec notre troisième invité également, Jean-François Bayard, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, vous travaillez sur les questions d'islam, sur l'Afrique notamment. Vous venez de publier chez Fayard le plan Q, ethnologie d'une pratique sexuelle. Chez Fayard également, avec une réflexion qui entre en résonance avec notre sujet de ce soir, le gouvernement du monde, une critique politique de la globalisation. Ça n'était pas en 2014, c'était en
2004.
Donc voilà, ça remonte déjà à une dizaine d'années. Alors, on ne va pas passer toute l'émission, hein, je vous rassure, sur les résultats du dernier concours de l'Eurovision, mais arrêtons-nous-y quand même quelques instants. Cette candidate autrichienne, donc Conchita Wurst, dont la victoire, d'après l'Express, qui en faisait un compte rendu dans les heures qui ont suivi, victoire qui était, donc, selon ce journal, une bonne illustration des tensions culturelles et diplomatiques actuelles entre Russes et Occidentaux. Est-ce que vous y voyez une part de vérité, Jean-François Bayard, ou bien une forte exagération ?
Il y a une part de vérité, parce que les questions sexuelles à l'échelle globale donnent lieu à des polémiques politiques et politisées. La simplification, c'est de considérer que, par exemple, la Russie est unanime à réprouver le transgenre ou l'homosexualité, ou à voir dans l'Afrique subsaharienne un sous-continent unanimement homophobe. Par exemple, il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud a constitutionnalisé la reconnaissance de l'homosexualité en 1996, ce qui n'était pas une mesure particulièrement homophobe, et que dans des pays dont les dirigeants politiques ont une orientation très homophobe, comme par exemple en Ouganda ou au Nigeria, où des lois réprimant très lourdement, et parfois même par la peine de mort, l'homosexualité ont été soit adoptées, soit mises à l'agenda parlementaire, eh bien ces politiques homophobes ont été contestées par des Africains eux-mêmes. mêmes dans chacun de ces pays.
Donc ces questions-là sont bien des questions politiques, mais c'est leur interprétation qui doit être nuancée.
Oui, et ce ne sont pas des questions culturalistes. Enfin, on ne peut pas en avoir une appréhension culturaliste. Par exemple, l'homophobie d'une partie des opinions africaines ou des dirigeants politiques africains a des origines très occidentales. Les missions chrétiennes, et notamment le mouvement aujourd'hui évangélique, a une influence déterminante dans le paramétrage du sexe en Afrique subsaharienne. Donc les origines sont souvent très occidentales et en réalité, ce que l'on voit à l'échelle globale, c'est que tout le monde ne se reconnaît pas dans les mêmes conceptions de ce qui est sexuel ou non sexuel, de ce qui est homosexualité ou hétérosexualité. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que certains acteurs peuvent avoir des pratiques de relations de plaisir avec des hommes ou avec des garçons sans les conceptualiser en termes d'homosexualité. L'homosexualité relève d'un vocabulaire spécifique d'origine occidentale. Donc on peut avoir la coexistence chez un acteur de deux types de répertoires culturels de la sexualité.
On verra justement en quoi ces questions sur l'homosexualité peuvent constituer ou pas des frontières à l'échelle globale. Sonia Dayan-Herzbrun, est-ce que la façon dont, je reviens à mon concours de l'Eurovision, à la victoire de cette femme à barbe autrichienne a été présentée souvent par chez nous comme une victoire de la tolérance, est-ce que vous y voyez aussi peut-être une forme de vision culturaliste, c'est-à-dire une opposition entre une Europe extrêmement conservatrice qui serait symbolisée par la Russie de Vladimir Poutine et puis une Europe beaucoup plus libérale qui serait celle de l'Union européenne? Ou bien est-ce qu'on est purement dans de l'instrumentalisation politique, côté occidental d'ailleurs comme peut-être côté oriental, puisqu'il y a aussi des officiels russes qui se sont manifestés pour dire « regardez ce que c'est que cette Europe qu'on essaie de vous vendre ».
Oui, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la Russie. Cela étant, c'est une vision effectivement tout à fait culturaliste. Alors moi je travaille surtout autour du monde arabe et du Moyen-Orient arabe et je ne peux qu'aller dans le sens de ce que vient de dire Jean-François Bayard, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de culturel, même en France, même en Europe, ça sont les travaux de Michel Foucault qui l'avait montré de façon magistrale. La notion même d'homosexualité est très récente. Et les pratiques, ce numéro tumulte, nous l'avons intitulé « Dire les homosexualités » parce qu'il y a un débat autour de la catégorisation, de ce qui se dit. Et si l'on passe d'une langue à une autre, la terminologie n'est pas du tout la même. Et les comportements peuvent varier. Alors pour ce qui est justement de cette question de transgenre, je connais un peu l'Inde, il y a, je veux dire que là, enfin, ce sont des choses qui existent. Hein. Le fait qu'il y ait un troisième genre, qu'il y ait des groupes, moi j'en ai vu à Calcutta, qui sont parfaitement insérés. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs et on y colle des catégories qui sont les nôtres, hein, qui ne sont pas nécessairement adéquates.
Ce sera ma dernière incise à propos toujours de ce concours de l'Eurovision, Nadine Catan. Ce qui était intéressant à voir, c'est l'analyse des votes. Il y a un politologue britannique qui s'est penché sur la façon dont les jurys avaient voté, que ce soit les jurys officiels ou les jurys de téléspectateurs. Et on constate qu'il y a eu des choses assez différentes. Par exemple, les téléspectateurs russes ont donné énormément de points à cette candidate autrichienne, contrairement au jury officiel. Est-ce que ça veut dire que quand on lit aussi la carte des pratiques sexuelles à l'échelle mondiale, il faut distinguer ce qui relève des individus, et donc sans doute de la sphère privée, de ce qui relève de la politique des États?
Alors absolument, merci beaucoup de poser la question en ces termes, parce que à vous écouter discuter, j'allais dire que oui, il y a un peu des deux par rapport à votre dualité. Est-ce qu'il y a effectivement une véritable tension ou une manipulation? J'ai envie de dire oui, peut-être qu'il y a un peu des deux. Mais attention justement, et je rejoins totalement les deux premiers intervenants, attention aux conclusions hâtives. Pourquoi? D'abord pour deux raisons, parce que justement en tant que géographe, en ayant analysé dans l'Atlas mondial des sexualités, les pratiques effectives des populations, on voit que les tensions se jouent à d'autres échelles, en Europe notamment et dans le monde. Elles sont certes entre un Ouest et un Est européen, mais elles sont également entre un Nord et un Sud, un pourtour méditerranéen et un autre. Elles sont également à l'intérieur même de chaque État, entre des grandes métropoles et des zones rurales. Et surtout, elles sont entre des pays nordiques, par exemple, très permissifs et d'autres pays à l'intérieur même de ce qu'on appelle le bloc occidental, entre guillemets. Et quand on analyse véritablement les pratiques, et j'en viens directement à votre question, on voit bien que partout en Europe, à l'échelle individuelle, aujourd'hui, l'Europe vit une transition sexuelle et amoureuse. Partout. Que ça soit en Orient, que ça soit en Occident, que ça soit dans son Nord ou dans son Sud. Et cela se traduit presque partout par un recul du mariage, par un plébiscite des amours infidèles.
Ça veut dire que ces transitions-là, elles vont toutes dans le même sens ? Elles vont vers quoi ? Vers une forme d'homogénéisation ?
Alors non, justement, en Europe, il y a certes une certaine mondialisation, un partage de certaines valeurs, mais on ne peut pas, surtout pas dire qu'il y a une homogénéisation. En Europe, on la voit peut-être un petit peu, mais dans le monde, certainement pas. Et éventuellement, on y reviendra.
Jean-François Bayard, dans Le gouvernement du monde, vous écriviez donc il y a une dizaine d'années
l'universalisation.
Merci. Des gestes de la sexualité ne signifient pas son uniformisation.
Oui, je crois qu'il y a effectivement une réinvention de la différence, comme disent certains anthropologues postmodernes, dans le domaine de la sexualité, comme dans d'autres domaines, l'alimentation, le vêtement, etc. Donc vous pouvez avoir des vecteurs de sexualité qui sont globalisés, notamment qui sont marchandisés, et qui font l'objet de pratiques sexuelles et qui mettent en branle des imaginaires sociaux, historiques, culturels différents. Par exemple, on dit que les sous-vêtements Calvin Klein sont tout à fait prisés des jeunes gays à l'échelle de la planète. Mais il est évident que, par exemple, dans un bar gay des Philippines, il y a une conception, une mise en œuvre de l'homosexualité qui sera différente de celle que l'on peut observer en France ou aux États-Unis.
Mais domine, selon vous, c'est quoi ? C'est malgré tout cette globalisation qui se retrouve aussi à l'échelle des mœurs et des pratiques sexuelles ?
Ce qui domine, ce sont les négociations, éventuellement les conflits entre des répertoires culturels, mais qui sont également des répertoires politiques et sociaux, de la sexualité. Parce que la sexualité met en action beaucoup de choses. Le plaisir, naturellement, mais également une certaine culture matérielle, une certaine conception du pouvoir politique, de la domination, de la soumission, etc. On peut prendre un exemple concret. Par exemple, au Kenya, la plupart des hommes kényans sont circoncis, à l'exception des loups. Bon. Et lorsque des prostituées kényanes ont eu pour clients des Européens, notamment des touristes européens, elles ont été confrontées à un problème moral important, c'est qu'elles étaient amenées à faire l'amour avec des hommes qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'étaient pas circoncis. Et faire l'amour avec un homme circoncis, cela relève dans cet imaginaire culturel et social de la pédophilie, au fond. Vous faites l'amour avec un enfant, socialement. Et cela a donné lieu à des conflits, à des négociations, mais dans un contexte par ailleurs politique et extrêmement tendu, puisqu'il y a quelques années, il y a eu une élection présidentielle très contestée, avec des manifestations, des morts, etc. Et le cri de guerre des électeurs Kikuyu qui contestaient l'éventuelle victoire du candidat Luo, c'était de dire on ne peut pas donner le Kenya à un président incirconcis. Donc vous voyez qu'il y a à la fois du sexe, mais il y a également de la politique, de l'imaginaire, du fantasmatique, et c'est une affaire de connexion, de négociation et parfois de conflit.
Alors cette dimension politique, Jean-François Bayard, que vous venez de décrire, c'est une dimension politique qui se joue au niveau interne, enfin en tout cas à l'intérieur d'un pays. Ce sur quoi vous écrivez, notamment Sonia Dayan-Hersbrun, c'est aussi quand les imaginaires, par exemple occidentaux, se confrontent à des pratiques qui sont hors occidentales et quand ces imaginaires, finalement, provoquent peut-être aussi des modifications dans la façon dont alors les pays, par exemple, en développement, pratiquent des sexualités. Je voudrais simplement citer peut-être un extrait d'un texte que j'ai lu de vous. Vous disiez notamment « La globalisation a eu pour effet de pousser un certain nombre d'hommes et de femmes à s'identifier selon les catégories sexuelles formées en Occident et à en supporter les conséquences face à des régimes politiques qui compensent leur autoritarisme par la mise en scène d'un rigorisme moral qui ne plonge en aucune façon ses racines dans l'histoire. » Donc ça veut dire quoi ? C'est l'Occident qui cherche à imposer ses valeurs, qui fait de ces questions-là un instrument politique ?
C'est plus compliqué que ça. Je ne pense pas que l'Occident cherche à imposer ses valeurs. Je pense que les valeurs sont diffusées. Elles sont diffusées dans les médias. Enfin, ce sont moins d'ailleurs les valeurs que les catégories, hein, parce que des valeurs, il y en a partout. Et les valeurs, comment choisir entre des univers de valeurs ? Ça, c'est un problème philosophique dont on ne débattra pas ici. Mais ce qui apparaît, hein, c'est une généralisation des catégories, en particulier les catégorisations de la sexualité, c'est-à-dire non seulement les homosexuels, les hétérosexuels, les différentes sortes de transsexuels, etc. Il y a toutes les catégories possibles et on catégorise de plus en plus. Et ça va à l'encontre de pratiques, hein, de pratiques même actuelles, hein, parce qu'il y a l'aspect politique, bien sûr, il y a le fait que des gouvernements ultra-autoritaires imposent des lois très autoritaire en matière de sexualité, même si dans la plupart des pays du monde, hein, pour montrer son pouvoir politique, il faut aussi montrer une grande puissance sexuelle et vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a connu en France pendant tout l'Ancien Régime et puis qu'on connaît même chez nos chefs d'État, mais qui est très répandu. Hein, bon. Donc le lien entre la puissance sexuelle, y compris celle qui consiste à sodomiser des jeunes gens, c'est quelque chose qui est très important. Hein. Donc, il y a cet aspect politique, et puis ça existe dans toutes les métaphores, hein. Mais il y a l'aspect social. Alors, justement, par exemple, les bars homosexuels, moi, je prendrais l'exemple du Maroc. Hein. D'abord, souvent, ce sont des bars qui sont là pour offrir de la clientèle aux Occidentaux qui passent, mais les jeunes gens, par exemple, qui ont des rapports que nous qualifions d'homosexuels. En même temps, ça n'exclut pas pour eux le fait de se marier, d'avoir des enfants, c'est-à-dire que les deux carrières, si je puis dire, peuvent être menées absolument de front et que ça n'est pas contradictoire. Et là, ce sont des choses qu'il faudrait qu'on réussisse un petit peu à intégrer, mais c'était vrai dans l'Europe du 19e siècle.
Donc, on ne pourrait pas lire la carte du monde en se disant, Nadine Catan, par exemple, s'agissant de l'homosexualité, il y a le groupe des pays où, par exemple, l'homosexualité est autorisée, en tout cas n'est pas pénalisée, et puis le groupe de ceux où c'est pénalisé. Il y a quand même un chapitre dans votre atlas qui s'appelle « L'homosexualité comme frontière ». Alors c'est quoi ? C'est une frontière géographique ou c'est une frontière autre que géographique ?
Non, c'est une frontière sociale, j'allais dire. C'est comme une conquête, en fait. Et justement, quand on analyse la très large palette des pratiques sexuelles et même des législations dans le monde, on voit bien quand même que la législation, la loi qui fait parfois la différence et qui peut-être coupe la planète quand même en deux, c'est effectivement les pays qui ont accepté ou qui légalisent, entre guillemets, l'homosexualité et les autres où l'homosexualité reste encore un énorme interdit. Dans les pays où, justement, l'homosexualité est un interdit, nous avons là un énorme cumul, en fait, de toutes les inégalités qui peuvent jouer aujourd'hui par rapport à l'accès à une meilleure éducation sexuelle, à une libération sexuelle, etc. C'est un constat que nous avons effectué quand même d'une planète coupée en deux, effectivement, même si, bien sûr, il faut avoir toutes les nuances possibles et ne pas mettre toute l'Afrique subsaharienne dans un même paquet et tout l'Occident non plus dans un même paquet, parce que même en Occident, nous avons aujourd'hui des libertés qui sont en recul et surtout, il n'y a qu'à voir la radicalisation par exemple, justement, des manifestants et des manifestations lors du mariage pour tous en France même. Donc, ça apporte énormément de nuances à cette lecture. Mais globalement et d'une manière totalement multidimensionnelle, il n'empêche que nous avons quand même des pays, j'ai envie de dire, permissifs et des pays en développement qui restent la plupart du temps répressifs sur un tout tas de panels et de palettes de comportements et de législation sexuelle.
C'est vrai que quand on regarde d'ailleurs une des nombreuses cartes que vous publiez dans cet atlas mondial des sexualités, Nadine Catan, notamment la carte consacrée à la liberté sexuelle, c'est vrai que c'est assez visible, ça saute aux yeux, cette répartition du monde avec un nord plus permissif, comme vous dites, et puis un sud beaucoup plus conservateur. Qu'est-ce que vous pensez, alors avec toutes les nuances, bien entendu, qu'a apporté Nadine Catan, mais de cette façon aussi de lire la carte du monde, Jean-François Bayard?
Disons que la géographie est importante, mais l'histoire l'est également, parce que nous n'avons pas été en Occident fixés, si je puis dire, dans une conception attendue temporelle de la sexualité. Ce qui est aujourd'hui autorisé en France ne l'était pas, ou en tout cas n'était pas considéré de la même manière, il y a 50 ans ou un siècle. Et rien rien n'est acquis.
Et vice-versa, d'ailleurs, peut-être pour certains pays du Sud, notamment les civilisations arabes.
Et vice-versa. Hein. Mais n'oublions pas que certains États états-uniens continuent de criminaliser ce qu'ils appellent la sodomie. N'oublions pas que l'Espagne de la Movida fait place à une Espagne beaucoup plus conservatrice qui remet en cause le droit à l'avortement des femmes. Par ailleurs, vous avez dans les pays du Sud, comme on dit, des luttes sociales en faveur de la liberté sexuelle. Je crois qu'on a parlé de multidimensionnalité et c'est important à l'échelle du monde, c'est important à l'échelle des sociétés, mais c'est également important à l'échelle des individus. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon petit livre sur le plan Q, c'est qu'au fond, vous pouvez avoir un individu qui, comme vous le disiez tout à l'heure à propos du Maroc, se reconnaît simultanément dans une palette de répertoires et de pratiques sexuelles. Par exemple, un des jeunes gens que j'ai interviewé, Hector, a une sexualité bifide. Avec les femmes, il est dominant, macho, comme il le reconnaît, même si c'est un jeu sexuel. Et il se donne également à des hommes. Et là, il est dans une position de soumis, dont il tire à la fois du plaisir et de l'argent. Donc il y a une multiplicité. Et au fond, la globalisation, elle s'effectue par plan. Hein, on parle des plans Q, mais il y a évidemment beaucoup d'autres plans que les plans Q. Elle s'effectue par plan qui assure des connexions. Et ces connexions, elles peuvent être complètement contradictoires. On peut être conservateur, par exemple, dans le domaine alimentaire et être très, entre guillemets, progressiste dans le domaine sexuel. Et vous avez, alors, au-delà des individus, vous avez des alliances conservatrices dans le domaine sexuel qui sont transcontinentales et transculturelles. Par exemple, l'alliance entre les oulémas conservateurs d'El-Azhar, de l'université islamique d'El-Azhar, et le Vatican à l'encontre de la contraception.
J'allais justement aller sur cette dimension-là, c'est-à-dire au niveau diplomatique, on
pas
peut...
la contraception, vous me corrigez, pardonnez-moi, vous avez raison. Vous avez raison.
On peut retrouver en tout cas au niveau diplomatique, de temps en temps, ces alliances de circonstances basées sur ces questions de mœurs.
Vous avez des saintes alliances conservatrices, notamment entre les religions ou certains ténors de certaines religions. Et effectivement, l'islam est beaucoup plus ouvert sur la contraception que l'Église catholique. Par exemple, la République islamique d'Iran a réalisé une transition démographique, notamment par le biais de politiques contraceptives, que bien entendu, le Vatican n'aurait pas pu approuver. Mais sur certaines politiques familiales, El-Azhar s'est retrouvé avec le Vatican, notamment lors de la conférence du Caire.
Donc difficile de retenir les critères culturels et religieux pour expliquer comment se répartissent les différents positionnements sur ces questions de mœurs et de liberté sexuelle. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer les clivages? Là, on peut peut-être sortir un petit peu de la pure géographie, Sonia Dayan-Herzbrun, mais est-ce que, par exemple, le niveau de développement économique ou la place accordée aux femmes sont des façons de comprendre comment les pays se positionnent sur ces questions-là?
Non, je ne crois pas, parce que moi je voudrais revenir sur votre expression reste répressif. Ce n'est pas du tout quelque chose qui serait une attitude conservatrice, c'est au contraire quelque chose de tout à fait nouveau, c'est une mauvaise forme de modernité dans un certain nombre de pays, parce que si on se réfère ne serait-ce qu'au 19e siècle, mais si on se retourne bien plus en arrière dans le temps, par exemple le monde islamique était perçu comme un monde au contraire de grande liberté sexuelle. Les voyageurs y allaient d'abord pour avoir des histoires sexuelles, mais c'était toute la fantasmatique était une fantasmatique de liberté sexuelle.
Alors qu'en Europe, c'était plutôt l'Inquisition.
En Europe, on était beaucoup plus, c'était la chemise de nuit à trous, comme chez les Huguenots. En tout cas, c'était les images, les représentations. Alors, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on nomme l'homonationalisme. Non, on en revient peut-être à l'aspect plus politique, ou qu'on appelle le pinkwashing, c'est-à-dire une attitude politique des Occidentaux avec un O majuscule, alors c'est très caricatural, qui consiste à montrer que les pays issus de la colonisation, les pays encore, les régions du monde encore colonisées, comme la Palestine, par exemple, ça c'est très clair dans le discours israélien, sont arriérés parce qu'ils répriment l'homosexualité. Donc du coup, on justifie encore sa supériorité par un discours de liberté sexuelle.
Mais donc ça veut dire quoi? Le discours de liberté sexuelle serait une sorte de discours néocolonial?
Enfin, un discours de néocolonial, non. C'est quelque chose qui s'apparenterait à ce qu'a pu être la mission civilisatrice. C'est-à-dire c'est un discours d'auto-valorisation, mais qui, encore une fois, qui projette sur des régions du monde différentes, non pas par leur culture intrinsèque, mais par leur histoire, l'histoire, par la manière dont elles symbolisent le récit qu'elles font d'elles-mêmes, qui projettent ces catégories et ces façons de voir. Alors, les fameux interdits, il faut aussi se rendre compte, c'est tous ces interdits sexuels. Souvent, ils jouent simplement comme levier, comme possibilité d'être invoqué pour tout d'un coup réprimer une partie de la population pour faire un coup d'éclat. Mais par ailleurs, par exemple dans l'Égypte qu'on pense être répressive, il y avait de façon notoire des ministres qui étaient connus pour préférer les hommes aux dames, et ça ne posait aucun problème à condition que ça ne se dise pas.
Donc ce sont plus des outils techniques que véritablement des dispositifs qui traduisent ce qu'est vraiment le rapport de ces sociétés-là à la liberté sexuelle. Nadine Catan.
Si je partage totalement vos deux discours sur l'importance de la mise en perspective historique, en fait, effectivement, pour nuancer le poids et l'évolution et tout cela, mais lorsqu'on regarde en photographie, en instantané, aujourd'hui, ce qui se passe entre ces pays, entre guillemets, du Nord et ces pays en développement, il y a des chiffres quand même qui parlent quelque part d'eux-mêmes. Alors après, on peut qualifier...
Par exemple,
nous avons 50 millions d'enfants-filles qui sont mariés en mariage précoce aujourd'hui. Nous avons, par exemple, 80 millions de grossesses non désirées dans les pays en développement. Nous avons 22 millions d'avortements qui se font dans des conditions inadmissibles de dangerosité et de sécurité. Dans ces pays-là, 222 millions de femmes sans accès aux moyens de contraception moderne dans ces pays en développement. Donc en fait, quand on a ce manque de législation ou ce manque de liberté ou ce flou autour des libertés, c'est systématiquement, au-delà peut-être de certaines populations homosexuelles qui subissent ce genre de situation, c'est systématiquement les femmes qui subissent ce genre aujourd'hui de discrimination et de loi.
Vous retenez, Nadine Catan, ce critère du développement qui est très intéressant, mais est-ce que c'est d'abord le développement économique ou est-ce que c'est le développement politique?
Alors, j'ai envie de dire, là également, il faut invoquer la multidimensionnalité, plusieurs facteurs qui viennent aujourd'hui et qui se croisent aux critères socio-économiques et culturels, peut-être et religieux. Peut-être un facteur aujourd'hui qu'on constate et qui est très important, c'est le degré d'urbanisation et d'urbanité en fait de ces pays en développement qui parfois pourrait être un critère explicatif de certains modèles de développement.
Jean-François Bayard.
Là, les choses sont extrêmement compliquées et montrent d'ailleurs les limites du politique et sans doute d'ailleurs aussi de l'explication politique. Par exemple,
le niveau de démocratie, par exemple, dans un pays, c'est un critère qui peut être retenu parmi d'autres pour expliquer
les différences. Non, pas franchement, parce que le cas du Maghreb est extrêmement intéressant. Le Maghreb a connu une transition démographique très très rapide. Déjouant d'ailleurs tous les pronostics des démographes qui, à ce propos, ont dit tout et n'importe... Ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes en riant. Bon. Le Maroc est un pays, une monarchie qui a été une monarchie quasi absolutiste, qui aujourd'hui est une monarchie beaucoup plus souple, avec un très fort taux d'analphabétisme. Le Maroc a connu la transition démographique. L'Algérie a connu la transition démographique sous la houlette d'un régime de parti unique et de la dictature de la sécurité militaire. La Tunisie a connu la transition démographique avec un code de la famille bourguibien plus ou moins libéral, mais quand même dans le cadre d'un régime autoritaire extrêmement tatillon, pour ne pas dire totalitaire. Bon. Dans le même temps, l'Égypte n'a pas connu la même transition démographique. Alors, une des explications avancées par les démographes, c'est que l'émigration maghrébine en direction de l'Europe a permis de rapatrier un modèle de famille conjugale avec des pratiques contraceptives, alors que l'Égypte émigrait en direction du Golfe et que les migrants ont rapatrié un modèle nataliste. Bon. Et toujours autour du bassin méditerranéen, il y a le cas de l'Albanie, très intéressant. L'Albanie, à peu près coupée du reste du monde, avec une politique furieusement nataliste de la part de la dictature communiste et qui a connu la transition démographique en même temps que le reste du nord du bassin méditerranéen. Donc le politique et même le développement économique n'apporte pas une réponse totale, en tout cas pour expliquer les transformations des pratiques sexuelles des gens.
Alors est-ce que cette explication, elle peut venir peut-être moins dans des phénomènes, en tout cas dans des approches structurelles, Sonia d'ailleurs Herzbrin, mais que par rapport à la place des femmes dans la société. Est-ce que ça, c'est une façon qui permet de se dire, par exemple, plus les femmes ont leur place dans la société, plus ça témoigne d'une société libéralisée au niveau des mœurs. On a par exemple une ministre des droits de la femme qui plaide pour une diplomatie du droit des femmes dans le monde, pour une diplomatie extrêmement active. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'aborder les choses?
Oui, moi je dirais tout dépend des femmes. Hein, parce que enfin, quand on parle des femmes, est-ce qu'il s'agit d'une petite élite qui effectivement s'occidentalise ou est-ce qu'il s'agit au contraire de la masse des femmes? Alors s'agissant justement des problèmes de santé reproductive, je suis bien d'accord, mais là, on a quand même un phénomène de pauvreté. Hein, je pense qu'il faut prendre, on ne peut pas isoler ce qui concerne la sexualité de l'ensemble du fonctionnement d'une société. Alors bien sûr, la place des femmes dans les sociétés, disons, du passé, et justement qui n'étaient pas ces sociétés du Sud où les gens viennent s'entasser dans des mégapoles parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur terre. Les femmes avaient... C'est-à-dire qu'il y avait des rapports qui étaient des rapports équilibrés d'une certaine manière entre les hommes et les femmes. Là, on est dans une période où il y a quand même une très grande misère, une très grande pauvreté, et qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la transition. Donc, on ne peut pas... je pense qu'il y a la notion de classe, de rapport de classe et de rapport entre les riches et les pauvres à l'intérieur même d'une société me paraît vraiment, vraiment important. Parce que dans un même pays, par exemple l'Égypte, la femme de Fella, évidemment, elle aura 8 enfants parce que c'est son seul bien d'avoir des enfants. Hein. Si la bourgeoise du Caire, elle n'en aura que 2, comme nous autres. Donc il faut vraiment affiner les analyses. Donc défendre les femmes, mais quelles femmes? Il faut des vrais accès à la santé, au travail, à l'école surtout, parce qu'il y a un taux d'analphabétisme extraordinaire pour les femmes dans beaucoup de pays, y compris au Maroc. Donc là, les inégalités sont vraiment très très importantes, et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut jouer. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fait de la sexualité.
Nadine Catan.
Oui, absolument. C'est essentiellement les femmes qui sont dans des zones rurales, qui sont avec peu d'éducation, qui subissent effectivement les conséquences de ce manque de législation et peut-être également quand même d'accès aux soins et de liberté sexuelle.
Sonia Dayan-Herzbrun, vous évoquiez tout à l'heure la façon dont l'Occident, alors avec toute la prudence qui est mise hein, quand on utilise ce terme, utilisait aussi ces questions pour valoriser son modèle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche de valorisation d'un modèle et de presque promotion d'un modèle auprès du reste du monde? Ou bien est-ce qu'on n'est pas davantage dans une forme de repli aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on utilise aussi ces questions-là pour se protéger d'agression supposée qui viendrait de l'extérieur? C'est peut-être Jean-François Bayard qui peut répondre à cette question.
La France est assez amusante sur ce plan parce que nous vivons la globalisation sur un mode obsidional. La globalisation, c'est un truc qui vient de l'extérieur, qui menace notre identité. On oublie quand même que, comme grand pays exportateur, même en dépit des difficultés actuelles, nous vivons et nous bénéficions de la globalisation et que nous sommes nous-mêmes de gros producteurs de globalisation dans le domaine culturel, dans le domaine de la culture matérielle. La baguette de pain a fait le tour du monde. Hein. Et alors, nous vivons également la question de l'immigration, l'actualité électorale le rappelle, sur ce même mode obsidional, hein, en pleurant sur l'incapacité du syndicalisme, de l'école, du parti communiste, de l'église catholique, d'intégrer comme jadis les immigrés. Bon, ce faisant, nous oublions déjà qu'on a quand même fait des pogroms à la fin du 19e siècle contre les très catholiques italiens. Et puis surtout, l'on ne voit pas, ou l'on ne veut pas voir que cette intégration des immigrés, elle se fait très largement au lit, hein, par le biais des mariages, par le biais du concubinage, ou même par le biais de ces fameux plans cul. Si vous regardez sur les sites de rencontres, vous avez des petites annonces qui sont racialement ou ethniquement, tout cela avec des guillemets, orientées, où par exemple, les gens cherchent un partenaire black, beurre, asiatique. Hein. Donc, au fond, l'on sait bien que notamment notamment dans la crise économique ou sociale que connaît la France, la famille reste une institution extrêmement puissante, y compris de solidarité intergénérationnelle. Et bien, de la même manière, les pratiques sexuelles sont des pratiques de rencontre, par définition, sont des pratiques d'intégration, sont des pratiques de création du lien social, même lorsqu'il s'agit de plans cul fugaces et qui sont déconnectés du reste des rapports sociaux de ceux qui s'y livrent. Donc il y a aussi toute une interrogation à avoir sur les pratiques sexuelles qui sont simultanément des facteurs d'intégration sociale, de création du lien social, mais qui sont également, notamment par le biais de la dissimulation, notamment dans le cadre des plans cul, des facteurs de dissidence sociale. Et c'est cette ambivalence qui est extrêmement intéressante, je trouve, à analyser.
Et puisque vous évoquiez, oui, Sonia Dayan Herzbrun.
Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je ne pense pas du tout que les pratiques sexuelles soient, enfin, d'abord le terme d'intégration me gêne, mais soient de toute façon des facteurs d'intégration, parce que la colonisation, elle a été sexuelle. Le fameux métissage, par exemple, en Amérique latine, c'est du viol, hein, c'est-à-dire qu'on tue les hommes, on viole les femmes dans la situation de la traite négrière et de l'esclavage. Les maîtres violaient leurs esclaves femmes. Les voyages des orientalistes, hein, c'était des voyages pour aller se taper des petits garçons ou des prostituées. Il n'y a qu'à lire Flaubert ou André Gide. En Afrique, c'était la même chose. Donc, il y a des pratiques sexuelles avec des exotiques. Il y a la pédophilie chez les gens qui vont en Thaïlande, chez les hommes qui vont en Thaïlande. Donc, on arrive à quelque chose de positif si les relations sont effectivement des relations à égalité.
Non, bien sûr, mais je me suis mal fait comprendre. En soi, la sexualité, elle est très ambivalente.
Elle peut être pure violence et
elle peut être pure violence, mais elle peut être aussi pure égalité et pur plaisir.
Oui,
et ce qui fait la différence, ce qui fait la différence dans les exemples que vous avez donnés, c'est par exemple la situation coloniale. Et là, évidemment, on est dans un contexte très différent de rapports dans une société démocratique comme la société française entre des qui sont d'origine différente.
À travers les exemples que vous évoquez, Jean-François Bayard et Sonia Dayan Herzbrun, on voit aussi, parce que c'est une question qu'on n'a pas abordée, on est quasiment à la fin de l'émission, comment les phénomènes migratoires peuvent aussi influer sur la répartition de cette façon d'envisager la liberté sexuelle. Nadine Catan, ça aussi, c'est un objet d'étude de votre atlas, c'est-à-dire comment finalement ces questions-là ont une influence sur les phénomènes migratoires, dans un sens comme dans un autre.
Alors effectivement, sur plusieurs... Dans plusieurs directions, les mobilités sont à la fois pour échapper à certains ostracismes dans certains États, donc on va ailleurs, mais également, parfois, malheureusement, c'est plutôt des migrations qui sont contraintes, notamment dans le cadre de la prostitution, de la traite d'êtres humains, etc. Mais je voudrais revenir sur un point qui me semble très, très important. On a discuté énormément de l'importance des États-nations sur l'instrumentalisation qu'ils peuvent faire ou qu'ils font et des discours qu'ils peuvent avoir sur les sexualités, les pratiques sexuelles, etc. Mais aujourd'hui, la sexualité est en grande partie aussi régie par des réseaux mondiaux. Et j'ai envie d'opposer, entre guillemets, les réseaux au territoire pour dire quand même qu'aujourd'hui, il faut prendre en considération ces réseaux pour comprendre les enjeux de la mondialisation et de la globalisation des sexualités, où justement Internet, par exemple, joue un rôle primordial et échappe complètement au contrôle des États et même à leur instrumentalisation.
Ouais, ce qui est valable d'ailleurs sur ces questions de liberté sexuelle, on le retrouve dans plein d'autres domaines. Je ne sais pas si tous les trois vous aimez la belle musique. Si c'est le cas, peut-être n'avez-vous jamais entendu cette fameuse Conchita Wurst qui a remporté le concours de l'Eurovision, voilà, Rise Like a Phoenix. On était bien obligé de lui accorder une petite place puisque c'est elle qui nous a inspiré l'émission de ce soir. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Nadine Catan, Atlas mondial des sexualités, Jean-François Bayard, Le plan cul, c'est chez Fayard. Sonia Dayan Herzbrun, Tumulte, dire les homosexualités d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Voilà vos commentaires, comme chaque jour, sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, la réécoute pendant 1000 jours les podcasts pendant un an. On se retrouve lundi à 18h20. Tout de suite, le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir. Down, but I'm gonna fly.